Amen, Jésus, alléluia. Je vous invite à ouvrir l'Écriture sainte et nous voudrions parler aujourd'hui d'un sujet qui au premier abord est, je pense, connu de pas mal d'entre nous, le fait que l'Église est une famille. Voilà, l'Église est une famille, je pense que beaucoup d'entre nous ont l'habitude de cette idée en tant que chrétiens. Nous sommes donc frères et sœurs en Christ, les uns des autres. Mais je crois que trop souvent, quand même, nous ne réalisons pas tout à fait ce que ça veut dire quand nous disons ça. Hein, donc, la plupart du temps, nous sommes, pour beaucoup d'entre nous, soit parce que nous y sommes nés, d'autres parce qu'ils sont baignés dedans, donc nous sommes emprunts de la notion occidentale de la famille, hein, c'est-à-dire de la notion moderne de famille, et nous n'avons pas vraiment capté à quel point l'enseignement de Jésus et les apôtres étaient révolutionnaires et radicales sur ce sujet. Donnez un exemple. Voilà, il y a eu un film dans les années 90, c'était le film Le Titanic. Bon, je n'ai pas vu ce film, hein, mais j'ai eu un résumé. Donc, et ce résumé donc racontait que ça a été bien sûr le premier et le seul voyage de ce paquebot, ça on le sait d'habitude, mais là aussi il y avait une histoire d'amour, hein, entre deux personnages, j'avais Jack et Rose, donc, et Jack c'était Leonardo DiCaprio, donc c'est un jeune garçon sans le sou, et puis Rose c'est Kate Winslet, donc elle voyage en première classe parce qu'elle appartient à la très grande bourgeoisie britannique, et c'est une jeune femme qui est déjà fiancée à un homme du même statut qu'elle, mais elle n'a pas d'affection pour lui. Voilà, d'ailleurs c'est un homme arrogant qui est franchement antipathique, mais voilà, le mariage est arrangé, hein, comme ça se faisait à l'époque, et il en va de l'intérêt de la famille que ça se passe comme ça. En effet, la famille de Rose a quelques soucis financiers et elle compte sur Rose donc pour se maintenir dans son statut social. Seulement voilà, Rose rencontre Jack, donc un soir sur le bateau, et elle tombe amoureuse. Et pour elle, le choix est cornélien, épouser un homme qu'elle n'aime pas pour le bien de sa famille ou poursuivre sa relation avec Jack, qui n'est pas du même milieu qu'elle, et qui va apporter donc la honte et la pauvreté à sa famille. Qu'est-ce qu'elle va choisir ? Voilà. Alors, en tant qu'Européen, en tant qu'Occidental, eh bien, tout en moi aurait tendance à dire, ben, écoute, fonce avec Jack, laisse tes codes désuets et traditionnels de côté, oublie ça, suis ton cœur. Pourquoi ? Parce qu'en tant qu'Occidental, je ne perçois pas trop, en fait, en quoi c'est un problème, en quoi c'est un dilemme pour elle. Pourquoi ? Parce que ce que je désire, c'est qu'elle soit individuellement heureuse. C'est qu'elle soit individuellement épanouie, pas tellement que sa famille garde son statut. Mais en fait, seul un occidental comme moi peut avoir ce genre de réaction en regardant le film. Parce que dans bien d'autres cultures, et à travers les siècles, et même aujourd'hui encore, à travers le monde, l'histoire de Jack et de Rose n'aurait pas du tout été perçue de la même façon. Pas du tout perçue de la même manière. Hein. À l'époque de Jésus, par exemple, en Palestine, si les spectateurs, les gens de l'époque, avaient pu voir le film, ils auraient été horrifiés par l'attitude de Rose. Donc, ils auraient considéré son histoire d'amour pour Jack comme quelque chose de complètement fou et de complètement déshonorant. La seule option pour Rose, à leur avis, c'était d'épouser ce riche personnage, aussi antipathique soit-il, puisque c'était pour le bien de sa famille. Voilà. Et là, parce que c'est là qu'il nous faut en venir, donc, le groupe, et particulièrement la famille, passait avant toute autre considération personnelle. Hein. Et c'est là une grande différence dans nos approches culturelles. Aujourd'hui, dans la société individualiste dans laquelle nous vivons, l'individu passe avant le groupe. Hein. Mais à l'époque de Jésus, le groupe primait sur l'individu. Et gardons ça en tête pendant la lecture de notre texte d'aujourd'hui, notre texte du jour. Donc c'est dans Marc chapitre 3 et au verset 31. Survinrent sa mère et ses frères, qui se tenant dehors l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui et on lui dit : voici ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. Et il répondit : qui est ma mère et qui sont mes frères ? Puis jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, « Voici, dit-il, ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Voilà. Hein. Et ce texte, En fait, il fait partie des nombreuses fois où Jésus a évoqué les relations familiales et où il a choqué profondément à chaque fois ceux qui l'écoutaient. Alors, premier chapitre que nous allons développer après cette introduction, c'est la famille dans une société collectiviste. Je dis collectiviste parce que, en introduction, comme celle de l'époque de Jésus, ou même celle de l'époque du Titanic, le bien du groupe auquel on appartenait, que ce soit la nation, que ce soit la famille, que ce soit la synagogue ou l'église, c'est quelque chose qui primait sur la satisfaction ou sur l'épanouissement personnel. Et dans le monde ancien, tout le monde présumait automatiquement cela. Une personne se concevait comme membre d'un groupe et comme responsable donc d'agir, de faire des choses ou de vivre tout simplement en fonction du groupe et dans l'intérêt du groupe. Et dans un groupe d'appartenance, chacun était libre d'agir, de faire ce qui lui semblait bon, mais à condition que ce soit dans l'intérêt du groupe. Et donc, puisque le groupe primait sur l'individu, chacun dans sa manière de se penser, chacun dans sa manière de se concevoir, se demandait non pas ce que le groupe pouvait lui apporter personnellement, mais ce que lui ou elle pouvait apporter au groupe, pouvait contribuer au groupe. Et ça, donc, c'est le monde dans lequel vivait Jésus. Mais là où nous voulons en venir, c'est d'aller encore plus loin, c'est que dans de telles cultures, la famille, c'est-à-dire avant tout les parents, les frères et sœurs, les enfants, ceux qui partagent le même sang, donc la famille, c'était le groupe prioritaire par excellence. Donc la priorité absolue, la loyauté première, la solidarité primordiale était envers la famille de sang. Et c'est pour ça que dans la Bible, vous avez des lois comme le Lévirat, c'est-à-dire un homme avait la responsabilité de donner une descendance à son frère décédé. Et c'est pour ça que la parabole du fils prodigue est si choquante pour l'époque. Pourquoi ? Parce que le fils cadet se désolidarise de la famille, il vit sa vie pour lui-même. Et on pourrait multiplier les exemples bibliques comme ça. Voilà. Mais si alors donc, dans une culture collectiviste, le groupe prime sur l'individu, si dans une telle culture, le premier groupe, la famille de sang, c'est l'objet de la première loyauté, qu'est-ce que Jésus est en train de dire quand il déclare, dans notre passage, « Qui sont ma mère et mes frères ? Voici, dit-il, ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Là, Jésus est en train de dire tout simplement qu'avant la priorité des priorités, avant la famille de sang, vient maintenant la famille constituée autour de lui. La famille de la foi en Jésus. En plaçant sa foi en Jésus, on appartient à un nouveau groupe, on appartient à une nouvelle famille, et la priorité absolue, la loyauté première du croyant, l'obligation principale, la solidarité fondamentale est maintenant orientée vers cette nouvelle famille, vers la famille chrétienne qui est l'Église. Et je vous laisse imaginer combien les propos de Jésus ont dû être choquants à l'époque, et s'ils sont choquants pour des individualistes que nous sommes aujourd'hui, eh bien alors imaginez un petit peu à l'époque. Donc, Jésus remplace la priorité des priorités, la famille de sang, par la famille chrétienne, par l'Église, par la famille de la foi. Et quand on comprend ça, on comprend d'autres passages qui sont choquants. Par exemple, dans Matthieu 10, au verset 24, où Jésus déclare, 34 pardon, Matthieu 10, verset 34, où Jésus déclare, ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui conserve sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. C'est très clair. Jésus dit que sa famille à lui passe avant notre famille de chair dans ce passage, et que ça va engendrer évidemment des problèmes et des combats dans la société et dans la situation. Et ainsi, selon Jésus, la loyauté première du chrétien doit être de le suivre, et donc de faire partie réellement de la famille qu'il constitue autour de lui. Avant tout autre groupe, donc, dans la famille de Jésus, nous sommes unis de façon plus forte encore que par les liens du sang. Vous savez, je me souviens d'un pasteur qui aimait à répéter que pour lui, dans sa vie, les choses étaient ordonnées, priorisées de cette façon. Il disait d'abord, en premier, il y a Dieu. En deuxième, il y a ma famille nucléaire, et puis après vient l'Église. Alors certains peut-être pouvoir trouver ça très utile, mais je vous avoue que je ne vois pas comment on peut justifier ça bibliquement. Comment on peut justifier ça avec ce que le Seigneur dit. Non, pour Jésus, la priorité doit être pour lui, et donc l'Église, la nouvelle famille. Il n'y a pas d'intercalage de la famille de sang, de la famille nucléaire, entre Christ et l'Église. Christ et sa famille, voilà ce qui doit être une priorité en tant que chrétien. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner et négliger les siens. Hein, l'Écriture tout entière nous l'explique bien. Donc, mais malgré tout, c'est quand même quelque chose qu'il nous faut avoir comme objectif, et c'est ce que nous essayons avec mon épouse de prioriser, hein, vivre cette priorité à Christ, à sa famille, à l'Église, le mieux que nous pouvons. Alors, ce n'est pas toujours simple. Je ne dis pas que c'est toujours simple. Hein, on a tous des situations où ce n'est pas forcément simple. Il faut des fois jongler, il faut des fois arbitrer, il faut parfois être un petit peu créatif, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui paraît juste, ce qui est clair, c'est bien ce que Jésus nous indique par sa parole, et c'est ce que nous voulons essayer de communiquer donc à notre famille. Quand nous le pouvons, nous ne sommes pas en compétition avec l'Église, c'est l'Église qui est notre famille et notre priorité. Amen. Ça, c'est notre premier point, notre premier chapitre. Et voici le deuxième qui en résulte, c'est la nécessité de sortir de l'individualisme chrétien. Hein, oui, parce que nous parlons facilement de l'Assemblée chrétienne comme d'une famille. Mais vous avez compris ce que nous désirons rappeler et enseigner, c'est que Jésus, pour Jésus, cette famille, ce n'est pas juste un autre groupe, en plus des autres, ou moins important que d'autres. Hein. Et ça, c'est quelque chose qui doit quand même nous amener à poser des questions chacun, nous faire réfléchir sur notre propre rapport à l'Église. Est-ce que la famille de Christ est vraiment votre priorité et votre loyauté première? Est-ce qu'elle prime vraiment sur d'autres groupes et d'autres activités dans votre vie? Hélas, trop souvent, vous savez, notre individualisme prend le dessus sur l'enseignement de Jésus, même dans l'Église, et même pour les pasteurs, hein, des fois. C'est ce qu'on peut appeler effectivement l'individualisme chrétien, et c'est penser que, oui, c'est vrai, nous faisons partie d'une même famille, mais seulement dans le sens nous avons le même Père, et que le plus important, au final, c'est ma foi personnelle, c'est ma relation personnelle avec Jésus, et ainsi on pense que l'Église est importante, oui, c'est vrai, mais seulement dans la mesure où elle peut m'aider à faire grandir, garantir ma foi, et à garantir ma relation personnelle avec Dieu. Donc ça veut dire que l'Église est un moyen pour moi, l'Église est pour moi, et je reste individualiste dans mon rapport au groupe de Christ. Hein, donc, nous voyons que tout cela est bien loin de l'exigence que Jésus pose lui-même sur cette relation que nous sommes appelés à entretenir avec lui, et donc avec sa famille, et donc avec l'Église. Alors, le troisième point maintenant, pardon, c'est qu'est-ce que ça implique concrètement? Qu'est-ce que ça va impliquer concrètement? Il faut rappeler que dans une famille en bonne santé, on prend soin les uns des autres, on se donne les uns aux autres. Hein. Ça, c'est la normale d'une famille en bonne santé. Hein. Et c'est ce que nous décrit l'apôtre Jean, par exemple, dans sa première épître, au chapitre 3, verset 14, où nous disons « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque hait son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous, nous aussi. Nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens de ce monde et voyant son frère dans le besoin lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. » Si vous regardez ce texte de près, vous voyez qu'il y a tout dedans. Il y a tout là, hein, parce que si Christ est mort pour nous, nous sommes appelés à vivre dans sa famille, je dirais avec la même orientation, avec ce même choix de vivre pour les frères et sœurs, de se donner pour eux, de se sacrifier pour eux. Et puis, ça a aussi des implications de la solidarité matérielle, de l'amour en acte. Sinon, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'on est frères et sœurs. Un autre aspect, c'est que si nous faisons partie de la famille de Jésus, nous voulons aussi partager nos cœurs. Hein, donc, c'est-à-dire passer du temps ensemble pour se connaître, pour s'apprécier, pour se dire les choses. Et je dirais que vous avez aussi, en même temps, un attachement émotionnel qui est fort, qui est effectif. Ça aussi, c'est quelque chose qui doit nous unir, parce que sinon, l'Église, ben, ça devient une simple institution froide, mais pas une famille. Hein. Donc, en partageant nos cœurs, en s'aimant ainsi, on grandit dans la confiance mutuelle. Donc, on partage les sentiments, ben, les joies, les peurs aussi, les échecs, oui. On se soutient dans la prière, on se soucie des frères et sœurs. Hein, on reçoit, on accepte l'un et l'autre dans sa faiblesse, dans sa différence, au lieu de le rejeter. Hein, donc, bref, on forme une famille. Avec ses difficultés, bien sûr, avec ses manques, avec ses faiblesses, mais une famille qui choisit de vivre ensemble, qui choisit l'affection mutuelle et qui met ainsi en pratique l'ordre du Seigneur. Amen. Et puis, une autre conséquence concrète de ce regard sur la famille que nous formons en Jésus, c'est la façon dont nous faisons nos choix, la façon dont nous prenons nos décisions. Ça aussi, c'est quelque chose. Hein. Vous vous souvenez de ce qu'on disait tout à l'heure. Dans une société collectiviste, chacun est libre d'agir, de faire ce qui lui semble moins juste, mais à condition que ce soit dans l'intérêt du groupe. Et il y a une nécessité qui est là aussi facilement oubliée dans nos vies chrétiennes et individuelles, si on n'y fait pas attention, c'est que nous, éventuellement avec les autres, où en sommes-nous ? Est-ce que nous sommes au centre simplement de nos choix, de nos décisions ? Ou bien est-ce que nous considérons les conséquences et les effets que ça va avoir sur l'Église ? Est-ce que nous sommes le début et la fin de nos choix ? Ou est-ce que notre appartenance à la famille de Christ impacte réellement nos décisions ? Hein ? Donc voilà. Et qu'est-ce qui va nous aider à faire les bons choix ? Dans la volonté du Seigneur, à les mettre en pratique, à les maintenir, pour obéir donc aux recommandations, aux instructions du Seigneur. Et bien je dirais que dans notre situation précise d'assemblée à Châlons, vous avez trois choses principales qui vont nous aider. La première, c'est le souvenir des bonnes choses et la reconnaissance. La deuxième, c'est le fait de garder le bon dépôt, et ça implique la fidélité. Et puis la troisième, c'est le fait de bien s'adapter à une situation pas forcément facile, et ça implique à la fois résistance et solidarité. Voilà, et nous allons, Dieu voulant, nous étendre un peu sur chacun de ces points dans la suite de notre prédication. Donc, les trois points, voici le premier, se souvenir des bonnes choses et par conséquent avoir de la reconnaissance. Vous savez, avant la crise du Covid, nous avons eu l'occasion d'expérimenter ici un fonctionnement d'assemblée qui, je crois, était quand même riche et plein d'avantages. Ce n'était pas le ciel sur la terre, hein, et la nostalgie ne doit pas nous faire voir le passé comme plus beau que ce qu'il a été. Mais nous avons eu la grâce, en tout cas pour ceux qui le désiraient, de partager bien des aspects d'une assemblée comme famille de Dieu, comme famille de Christ, et ça a été un grand bienfait pour beaucoup, et je pense exprimer l'avis de plusieurs d'entre nous en disant cela. Il y a une sœur qui me faisait récemment remarquer, elle me faisait parler de son enfant qui n'avait pas pu connaître la période d'avant le Covid parce qu'elle était trop petite, et me disait qu'elle voyait qu'il lui manquait quelque chose par rapport à d'autres enfants plus grands qui avaient vécu cette période-là. Parce que les enfants aimaient à venir le dimanche, lorsqu'il y avait toutes les activités, pendant les réunions, ce qu'il y avait comme activité entre les réunions, et je crois que rien que ça, rien que le fait que les enfants aiment cela, ça devrait être une indication suffisante pour nous. Hein, parce que le Seigneur a clairement dit que si nous ne devenons pas comme les petits-enfants, n'entrons pas dans le royaume des cieux. Et puis, que rappeler, justement, le souvenir des bonnes choses, rappeler ceux qui ont été accueillis et intégrés dans le peuple de Dieu grâce à l'Église. Hein, donc, dans le cadre de l'Église, invités dans l'Église, accueillis, logés dans l'Église, certains pour de longues périodes, hein, les repas en commun qu'il pouvait y avoir, le dimanche midi, le goûter, le samedi soir même, pour certains, avec donc des lieux d'échange fructueux, des partages enrichissants, de connaissances mutuelles et fraternelles, les missions, Les missions, donc, qui étaient de véritables entreprises et souvent des aventures ensemble, des expériences de foi, de solidarité, d'accueil, d'hospitalité, d'ouverture aussi sur la famille élargie de l'œuvre. Les camps de jeunes, qui ont été d'extraordinaires moyens de bénédiction pour beaucoup de conversions, d'expériences dans un cadre de nature épanouissant, d'avancement avec Dieu, de prise de responsabilité, les activités de chant en commun, les chorales, donc une belle preuve des choses qu'on peut, des belles choses qui peuvent être faites ensemble si on se donne la peine de se mettre sous une discipline de participation commune, donc, et choses qui, pour la gloire de Dieu aussi, les pièces de théâtre, les comédies musicales si enrichissantes et constructives, là aussi révélation de capacité, de qualité complémentaires et diverses donc chez les uns, chez les autres, moyens de formation, moyens d'intégration aussi en même temps, et entreprises solidaires qui faisaient appel à la participation de beaucoup. Le travail d'évangélisation, l'amour des âmes, d'accueil, d'ouverture d'esprit qui permettent à plusieurs de se faire tout à tous afin d'en gagner de toute manière quelques-uns, et permettait quelque part au Seigneur aussi d'envoyer des âmes qui ont pu être ainsi attirées à Christ en même temps qu'accompagnées et intégrées. Les conventions, les rencontres d'assemblées, moyen de tant de bénédictions, de tant de bonnes expériences avec le Seigneur, tant personnelles qu'en assemblée. Les jeunes d'assemblée, occasion de combats spirituels en commun, de moments de louange, d'adoration particulièrement bénis, de baptême du Saint-Esprit aussi. Puis bien sûr les cultes tous ensemble. Pour l'instant on n'est pas tous ensemble, on est une partie pour le premier culte, une partie sur le deuxième. Donc avec la Sainte-Cène bien sûr, la communion, toute l'assemblée, la joie de se retrouver tous autour du Seigneur et avec lui, et toutes les activités qui en découlaient le dimanche. Et on pourrait parler encore de certains ici qui sont grandement redevables à l'Assemblée et à ses activités, à son cadre, pour avoir trouvé un conjoint chrétien et avoir pu ainsi former une famille dans le Seigneur. Et certainement, n'est-ce pas là une petite raison de reconnaissance. Et j'ai cité tout ça en vrac, pas vraiment par ordre d'importance, et je pense que plusieurs d'entre nous, là encore, pourraient compléter cette liste. Et tout ceci, ce n'est pas juste du passé idéalisé, ce n'est pas juste des souvenirs qu'on se rappelle à le regret pour ensuite refermer le dossier en se disant que maintenant c'est fini. Rappelons-nous de David. David qui se rappelait avec amour de semblables moments. Dans le psaume 42, il dit, rempli de nostalgie, « Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. » À ce moment, il écrit ça, il était en exil, loin de la maison de Dieu. Alors on ne sait pas exactement si ce psaume se réfère à la période où il était poursuivi par Saül ou à la période plus tardive lorsqu'il y avait eu le coup d'état d'Absalom qu'il avait été obligé de s'enfuir. Mais en tout cas, dans les deux cas, cette perte de possibilité de venir à la maison de Dieu, cette perte de communion avec le peuple de Dieu, ça pouvait paraître définitif, ça pouvait paraître irrémédiable. Mais lui, il n'a pas voulu se résigner, il n'a pas voulu se laisser abattre ni décourager comme ça. Il est persuadé que le Seigneur lui redonnera encore l'occasion d'expérimenter de tels précieux moments. Et c'est là que par trois fois, il se dit à lui-même ce passage si précieux pour ceux qui auraient tendance à se décourager. « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi ? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Alléluia. Trouvez ça dans le psaume 42, donc au verset 6, au verset 12, et dans le psaume 43 et au verset 5. Et c'est comme ça qu'il s'est fortifié, dans la reconnaissance et dans la foi, et que Dieu lui a donné la victoire et lui a redonné de grandes bénédictions, et je dirais même de plus grandes bénédictions que les premières. Amen. Que Dieu donne à chacune et à chacun d'entre nous des cœurs qui se souviennent. Des cœurs qui se souviennent de la bonne façon. Un cœur qui sert en lui-même les précieux souvenirs et les bénédictions accordées et vécues, et par qui par conséquent est aussi un cœur reconnaissant. Vous savez, il faut rappeler toujours combien la reconnaissance est à la base de la vraie foi. Une mémoire reconnaissante, une mémoire qui se souvient des bontés de Dieu, va pouvoir d'autant mieux se raccrocher aux promesses de la parole de Dieu, et se saisir des bénédictions et des miracles que le Seigneur va accorder à ceux qui se confient en lui. Mais vous savez, hélas, Il est possible de tordre sa mémoire, hein, de tordre son propre souvenir. Et ceci, ben, parce qu'on est dans un état d'incrédulité ou de mécontentement ou un esprit de murmure. Rappelez-vous à ce sujet l'exemple particulièrement frappant du peuple d'Israël dans le désert, qui, à cause de cet état d'esprit, en était amené déjà à mépriser la manne que le Seigneur leur accordait miraculeusement et généreusement chaque jour, mais pire que ça encore, à oublier les grands prodiges que Dieu avait faits pour les sortir du pays d'Égypte, ou à les minimiser, et puis pire encore, à considérer le lieu qui avait été le lieu de leur tourment, qui avait été le lieu de grandes souffrances pour eux, à finir par le considérer comme un lieu d'abondance. Nous nous souvenons des concombres, des oignons, etc., que nous avions en Égypte. Mais vous ne vous souvenez pas du reste, voyez-vous ? Une mémoire sélective, une mémoire qui refait l'histoire, et qui la refait mal, dans le mauvais sens. Et le résultat, c'est quoi ? Ben, le résultat, c'est qu'ils se sont fourvoyés, et ils se sont finis par se mettre eux-mêmes sous de grands jugements, parce qu'ils ont complètement renversé la réalité de ce qui s'était passé. Et soyons donc de ceux qui cultivent de bons souvenirs, des souvenirs qui baignent, je dirais, dans cette précieuse reconnaissance. Comme l'apôtre Paul, dont nous parlions encore dimanche dernier, et qui, dans sa grande liste de salutations de Romains chapitre 16, nous montre combien il gardait le souvenir reconnaissant de tous ceux qui avaient travaillé, lutté, combattu, risqué dans l'œuvre de Dieu pour l'avancement du royaume de Dieu. Il les mettait en évidence, il les mettait en exemple. Ou comme Marie, dont il est écrit qu'elle repassait dans son cœur les choses précieuses qui lui avaient été dites de la part du Seigneur, les expériences qu'elle en avait tirées, les merveilles qui lui avaient été données de vivre. Et c'est ça qui l'a aidé à s'en sortir. Parce que quand le prophète lui dit « Toi, une épée te transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées », ça veut dire que Marie devait souffrir beaucoup. Et si Marie n'avait pas eu un fondement solide, un fondement de reconnaissance, aurait-elle réussi à passer par ses souffrances ? Dieu merci, elle a eu cela, et nous la voyons, qui donc, au bout du compte, eh bien, a pu s'attacher finalement et fidèlement à Christ. Amen. Et la vraie reconnaissance nous rend ainsi actifs, attentifs et réactifs. Elle fait de nous de puissants moyens de bénédiction pour d'autres, elle nous permet de saisir les occasions, les opportunités, dans les difficultés même de la situation présente. Amen. Et puis, ensuite, ça c'était notre premier point maintenant, et voici le deuxième point donc. Garder le bon dépôt, et ça implique la fidélité. Hein ? Lorsque Paul s'adresse à Timothée, au travers de ces deux épîtres qui constituent son testament spirituel, il lui communique, ainsi qu'à nous, la notion de bon dépôt, à garder et à transmettre, et c'est quelque chose qui revient continuellement, surtout dans la deuxième épître, hein, deuxième épître de Paul à Timothée. Chapitre 1, verset 12, « Je sais en qui j'ai cru, je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. » Verset suivant, « Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. » Verset suivant, « Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. » Chapitre 2, verset 1 et 2, « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Toute la notion de garder et de transmettre est contenue là. Hein. Chapitre 2, verset 8, « Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme malfaiteur, souviens-toi. Rappelle ces choses, continue-t-il au verset 14, en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui les écoutent. » Et puis au chapitre 2, toujours verset 21, « Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. » Chapitre 3, verset 14. Enfin, il conclut, chapitre 4, verset 7, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Amen. Et nous sommes tous devant cette réalité-là aujourd'hui, plus que jamais, d'un dépôt à garder et à transmettre, de quelque chose de précieux qui nous a été confié, dont nous avons bénéficié, dont nous pouvons encore bénéficier, mais ce n'est pas pour nous seulement, car notre responsabilité et notre appel eh bien, ça consiste à veiller à l'intégrité et l'intégralité du dépôt, ainsi qu'à sa transmission autour de nous et après nous, à ceux qui sont appelés à nous succéder. Amen. Voilà. Et dans ce bon dépôt, qu'est-ce qu'il y a ? Alors, parlons-en de ce bon dépôt. Dans ce bon dépôt, vous avez déjà l'aspect, ça c'est une première facette sur les deux facettes de la question, déjà l'aspect du message et de l'enseignement de la parole de Dieu, de la doctrine du témoignage. C'est ce qui ressort en premier de ce que l'apôtre Paul dit à Timothée. Hein. Donc vous avez la prédication de la croix, la doctrine de la Sainte Cène, la nécessité de l'annonce de l'Évangile pour la conversion à Christ, vous avez la puissante doctrine de la nouvelle naissance, vous avez la doctrine de la consécration de toute notre vie, et, qui est accompagnée de la doctrine de l'obéissance du corps, vous avez la doctrine du baptême d'eau, celle du baptême du Saint-Esprit, de la plénitude du Saint-Esprit, vous avez la doctrine de l'entière sanctification, la doctrine de la guérison divine de l'imposition des mains, la doctrine de l'Église, celle de la communion des saints en Christ, la doctrine de la prière sous ses différentes formes, la doctrine de l'au-delà, du ciel de gloire, de la perdition éternelle, la doctrine de la prophétie biblique, la doctrine de l'évangélisation, du grand ordre de mission qui nous a été donné. Et si on fait l'examen de ces différentes activités de l'Église dont on a parlé, que nous avons rappelé et énuméré tout à l'heure, vous pouvez vous apercevoir qu'une au moins de ces doctrines, ou même plusieurs souvent de ces doctrines, sont à la base de l'existence de ces activités et de leur fonctionnement. Est-ce que nous aurions l'idée d'abandonner une seule de ces doctrines ? Je ne pense pas que personne parmi nous, parmi les membres de l'Assemblée, le désire d'abandonner une de ces doctrines. Hein ? Prenons un exemple. Par exemple, voilà, en ce moment, nous ne prenons pas la Sainte Cène ensemble. Hein ? Donc, nous avons expliqué, je pense, avec beaucoup de soin, pourquoi, en ce moment, dans les circonstances que nous traversons, nous ne pouvons pas le faire, voilà, dans la situation où nous nous trouvons actuellement. Maintenant, imaginons que je vous dise, là, aujourd'hui, du haut de la chair, à partir d'aujourd'hui, nous ne prendrons plus jamais la Sainte Cène. Hein. De toute façon, c'était bon avant le Covid, hein. Maintenant les choses ont changé, de toute façon, on peut être chrétien sans ça, on a vécu sans ça depuis pas mal de temps, finalement, ça ne va pas être si important que ça. J'imagine, et j'espère, qu'il y aurait une réaction immédiate dans l'Église, hein. Et puis que pourquoi ? Bien parce qu'en faisant ça, on désobéirait à la parole de Dieu, parce qu'on toucherait à un grand ordre du Seigneur, parce qu'on abandonnerait une des grandes doctrines de l'Écriture. Et mes frères et sœurs, c'est parce que nous avons des doctrines bien claires et des ordres bien précis de la part du Seigneur que nous avons repris les réunions d'évangélisation du vendredi, par exemple, avec des témoignages, avec la prédication de l'Évangile, avec l'appel à la conversion. Ce n'est pas simplement une vieille habitude que nous avons voulu ressusciter. C'est parce qu'il y a des doctrines puissantes derrière cela. Hein. C'est pour ça que nous avons repris l'imposition des mains, ou ceux qui s'en rapprochent le plus pour le moment, là encore, étant donné les circonstances, c'est pour ça qu'on a repris les réunions de prière, ou du moins en partie, hein, et que nous avons aussi repris l'émission, peut-être pas encore en grand format, parce que je peux dire, parce qu'avec les contraintes actuelles qu'on connaît, mais avec le désir de maintenir ces doctrines qui font partie du dépôt précieux qui nous a été confié. Et Dieu voulant, nous poursuivrons la remise en route de ce qui sera possible, sans précipitation, mais avec détermination, lorsque l'occasion s'en présentera, suivant les directions du Seigneur et les possibilités qu'il va nous donner. Amen. Voilà. Et dans le bon dépôt, vous avez un deuxième aspect, deuxième facette, c'est celui, je dirais, du fonctionnement, des pratiques, des choses qui sont mises en œuvre pour pouvoir garder le bon dépôt. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de le garder en théorie, il s'agit aussi de le garder en pratique. C'est l'autre aspect de considérer cela. Ainsi, le culte dont nous avons parlé, donc, c'est pour nous un moyen en tout cas, c'est l'objectif que nous visons, de remerciement, de louange, d'action de grâce au Seigneur, de rappel de l'œuvre de Christ, de communion les uns avec les autres en Christ, d'enseignement, d'édification. Hein. Les réunions d'évangélisation sont de merveilleuses occasions de témoignage, de manifester un intérêt pour les perdus, de soutenir le travail d'annonce de l'Évangile, de prier en commun pendant l'imposition des mains et de prier pour les personnes nouvelles qui sont là pour qu'elles reçoivent l'Évangile. Les activités d'évangélisation en sont le prolongement, que ce soit le porte-à-porte, la mission, le témoignage dans la rue, le témoignage personnel. On est en plein dans la mission de garder le bon dépôt. Hein. Les réunions de prière, donc, sont de précieux moyens de consécration, de sanctification, d'intercession, de combat spirituel, de se mettre en accord à plusieurs pour partager les sujets de prière, pour donc être exaucés. Et les jeunes d'assemblée ont été et sont encore un prolongement, un approfondissement en même temps, avec de précieux moments de louange, d'adoration, de baptême du Saint-Esprit, et là aussi des victoires spirituelles. Les repas communautaires et autres activités communautaires, même de détente, ont été, c'est vrai, et sont encore d'excellents moyens d'échange, de partage, d'approfondissement des relations, de la connaissance, d'intérêt mutuel, de compagnonnage dans l'œuvre, bref, aussi d'intégration des nouveaux venus. Et sans parler de ces entreprises communautaires que sont les conventions, les missions, les camps de jeunes, les chorales, etc. Et si je ne m'étale pas plus, eh bien, simplement, nous pouvons quand même bien voir qu'un titre ou un autre, et même souvent à plusieurs titres, ces diverses activités dans l'Église se rattachent au bon dépôt, à la manière de le garder, de bien le garder, de le transmettre et de bien le transmettre, et que ce ne serait pas sans les plus grands risques qu'on déciderait de les abandonner définitivement, voire de les négliger, ce qui finalement reviendra au même, puisqu'on les abandonnerait quand même. Alors tout ça, ça nous amène à notre troisième point, agir et s'adapter à la situation présente, avec deux choses qui ressortent, la question de la résistance et la question de la solidarité. Nous voulons tirer de tout cela quelques conclusions, quelques rappels, une dizaine de conclusions. La première chose, ne perdons pas la vision divine. Ne la faisons pas passer au second plan. Ne la mettons pas aux oubliettes. Deuxième chose, gardons la conscience des privilèges que nous avons eus et que nous avons encore. Un précieux dépôt nous a été confié. Réalisons tout à nouveau sa valeur et donc ne le négligeons pas. Soyons les bons gardiens de ce dépôt, en théorie comme en pratique, valorisons-le et partageons-le. Et puis une troisième chose, ne soyons pas oublieux et ingrats envers l'Assemblée, la famille de Dieu, l'œuvre de Dieu. Rappelons-nous point par point les divers bénéfices que nous avons obtenus de la part du Seigneur dans ce cadre et par son moyen. Puis quatrième chose, et qu'ainsi, lorsque les circonstances mettent l'Assemblée dans la souffrance, dans l'abaissement, eh bien, que nous soyons de ceux qui gardent son importance et sa valeur à cœur, pour veiller sur elle, la soutenir et bien sûr y participer fidèlement et activement. Et puis une cinquième chose, soyons bien conscients que l'Assemblée, c'est irremplaçable. Les visioconférences, les vidéos, autres artifices sur Internet, bon, c'est mieux que rien pendant un temps peut-être, mais pour Christ, c'est quand même l'Église qui demeure la colonne et l'appui de la vérité. C'est l'assemblée locale des frères et sœurs qui se retrouvent en chair et en os, donc en personne, qui reste le lieu privilégié où Dieu se révèle et où Dieu bénit. Et la doctrine du corps nous rappelle également cela. Et puis, n'ayons pas crainte de nager à contre-courant. Ça aussi, c'est quelque chose. Quand nous sommes venus au Seigneur, Jésus-Christ, nous avons réalisé qu'il fallait nager à contre-courant. On n'allait pas se laisser emporter par le courant du monde et de ses façons de faire. Donc voilà. Et je dis que là, à ce niveau-là aussi, il faut résister, je dirais, à quelque part, ce fatalisme ambiant, à cette résignation, à cette incrédulité, ce repli sur soi manifesté, hélas, par un trop grand nombre d'évangéliques dans cette circonstance. Ils se sont frileusement repliés sur leur petit cercle de confort. Et c'est vrai que ça aussi, ça nécessite des efforts. Mais ça en vaut la peine, parce que c'est le chemin, c'est la voie de l'approbation de Dieu. Amen. Et puis une septième chose, demeurons convaincus que l'Assemblée, ça reste le moyen privilégié de Dieu pour sauver nos familles. Encore une fois, il n'est pas question de négliger sa famille, mais ceux qui vont réduire l'œuvre du salut au cadre de leur famille commettent certainement une grande erreur. Et c'est pratiquement sûr qu'ils auront à l'échec. Voyez au contraire ceux qui se sont consacrés premièrement au Seigneur et à son œuvre, qui ont consacré les leurs et la façon dont Dieu les a soutenus en cela. Rappelez-vous de la famille de Paul, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 16, dont on a parlé dimanche dernier. Nous pourrions parler aussi de Noé, rappeler comment Noé a sauvé sa famille, comment il a sauvé les siens, dans des temps très difficiles, peut-être encore plus difficiles que ceux que nous connaissons actuellement. Donc, sur bien des points, il les a consacrés à la construction de l'arche, de l'œuvre de Dieu, en même temps qu'il assurait sa mission de témoin et de prédicateur de la justice. Et puis, je pourrais ajouter à cela un modeste témoignage personnel. Vous savez, depuis que je me suis converti, j'ai eu comme... je pense tous ceux qui se convertissent, j'ai eu à cœur le salut de ma famille. Hein. Mes parents, mes frères et sœurs, oncles et tantes, cousins. Mais vous savez, quand on s'est engagé pour servir Dieu, pour servir le Seigneur, nous avons eu très longtemps un emploi du temps extrêmement chargé parce qu'il y avait beaucoup de réunions chaque semaine. Il y avait une quinzaine de missions par an, on faisait dans ce temps-là. Ça a duré pendant des années, donc ça veut dire que toutes les vacances étaient prises. Et le seul créneau que j'avais de disponible pour aller voir mes parents qui étaient en Alsace, donc, ça consistait à partir le jeudi matin pour être de retour le vendredi en fin d'après-midi, et ça de temps en temps. Et combien de fois, eh bien, on a dû décliner des invitations à des rencontres familiales. Alors, régulièrement, je priais. Je disais, Seigneur, travaille leur cœur pour les sauver, donne-moi des occasions de témoigner, d'annoncer l'Évangile. Vous savez, je sais que pour nous tous qui sommes chrétiens, le travail au salut de notre famille, c'est une affaire de longue haleine. Ce n'est pas quelque chose qui se fait en 15 jours. Ce n'est pas comme ça. Donc, alors, je continue à prier. Alors, je dis, Seigneur, tu vois comme nous sommes pris dans cette œuvre, dans cette grande œuvre. Occupe-toi de ma famille, s'il te plaît. Vous savez, Dieu a fait son œuvre. Dieu a fait son œuvre. Il y a ma maman qui a été touchée par le Seigneur, donc, et que j'ai eu le privilège de pouvoir baptiser lorsque j'étais pasteur à Saint-Dizier à l'époque. Et puis après, il y a eu une autre occasion inattendue aussi, c'était le décès d'une de mes tantes. Et là, aucun religieux ne s'est trouvé disponible sur place pour assurer la cérémonie funèbre, donc c'était au dernier moment. Et puis là, on s'est tourné vers moi, on m'a demandé, mais est-ce que tu pourrais pas, on sait que tu es pasteur. Et puis c'est comme ça que j'ai pu assurer ce service funèbre, que j'ai pu prêcher l'Évangile, et qu'ensuite, à la réunion de famille qu'on a eue, j'ai eu beaucoup de questions, de nombreuses occasions de parler du Seigneur. Vous voyez, ça a été comme ça. Et puis il y a une autre occasion, c'est le décès de ma propre maman. Donc là aussi, j'ai pu prêcher au cimetière, donc devant plus de 200 personnes qui étaient là, dont l'ensemble de ma famille, et plusieurs qui ont été touchés par le Seigneur à ce moment-là aussi. Donc, et puis mon propre père doit se toucher aussi à son tour, peu de temps avant ce décès, et je sais que ce n'est pas fini. Alors si je vous dis ça, c'est qu'un témoignage personnel, avec les circonstances particulières qui sont les miennes, et qui sont différentes de celles de chacun d'entre nous. Mais vous savez, il y a un grand principe d'action divine qui est quand même là. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Pour toutes les situations dans lesquelles on puisse être, donc, et ce grand principe d'action, il s'est réalisé, il est valable pour nous tous. Si vous vous occupez de l'œuvre du Seigneur en premier, Dieu s'occupera de vous et de vos affaires, si vous les lui confiez. Et vous savez, il s'en occupera beaucoup mieux que vous ne le ferez vous-même. Alléluia. Et ça, je peux le dire, parce que si c'est moi qui m'étais occupé de la chose, je pense que j'aurais pu gâcher beaucoup d'occasions. Mais je bénis Dieu, parce que dans ce domaine-là aussi, la promesse est pleinement valable qui dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes choses vous seront données en plus. » Amen. Et puis, une huitième recommandation que nous pouvons aussi faire, ayons à cœur de nous lier à ceux qui, dans l'Église, dans l'œuvre de Dieu, ont ce même but, ce même désir, ce même idéal. Je crois qu'il est important de garder, de retrouver peut-être, l'esprit de ses compagnons d'œuvre, de ses compagnons de combat, parce que c'est là que vous avez une véritable et profonde communion fraternelle. Et il y a une bénédiction absolument certaine pour ceux qui agissent ainsi. Jean prend à témoin le passage de Malachie, chapitre 3, verset 16. « Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre du souvenir fut écrit devant lui, pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Amen. » Amen. Et puis une avant-dernière réflexion, mes frères et sœurs, mes amis, eh bien, vous savez, ceux qui baissent les bras, non seulement vont rester sur place, mais encore vont reculer. Voilà, ça c'est une grande loi des choses spirituelles, du monde spirituel duquel il faut tenir compte. Mais ceux qui se fortifient dans cette bonne résolution, ils verront que le Seigneur leur ouvrira des occasions. Il leur ouvrira des portes d'opportunités qui se découvriront au fur et à mesure qu'ils avanceront dans ce bon chemin. Et enfin, pour conclure, eh bien, pour tout ça, on n'a pas besoin d'attendre, je ne sais pas, quel signe supplémentaire grandiose venant du ciel ou quelle disponibilité, facilité exceptionnelle, mais ce que ta main trouve à faire présentement, eh bien, dans l'œuvre de Dieu, eh bien, fais-le. Dans cette situation qui est là, ces occasions qui sont là, eh bien, dans l'œuvre de Dieu, aie à cœur de participer de tout ton cœur. Mets ton cœur dans la bonne disposition vis-à-vis de ces choses. Maintiens-le ainsi et le Seigneur, ton Dieu, sera avec toi partout où tu iras et dans tout ce que tu entreprendras. Béni soit son nom. Que Dieu bénisse sa parole pour chacun de nos cœurs. Amen. Amen. Te remercions, Seigneur Tout-Puissant, nous te remercions, Sauveur béni, pour toute œuvre que tu as accomplie et que tu veux encore accomplir. Nous sommes très reconnaissants pour plusieurs d'entre nous, pour beaucoup d'entre nous, de ce que nous avons pu déjà réaliser, de ce que nous avons pu vivre avec toi, dans ta communion, Seigneur, et dans la communion des frères et sœurs. Et Seigneur, merci parce que tu es celui qui veut nous faire nous attacher à ces choses et ne pas seulement nous en contenter. Il ne s'agit pas de faire de l'autosatisfaction, mais il s'agit véritablement de s'encourager pour continuer à progresser dans ce bon chemin avec ton secours. Merci notre Dieu, louange à toi. Béni sois-tu pour ta grâce que tu répands sur ton peuple. Béni sois-tu pour ceux qui ont ce désir d'avancer dans ton bon chemin, Seigneur, ceux qui ont ce désir vraiment d'être ses disciples comme toi, tu les demandes de faire partie de la famille que toi tu as voulu et aux conditions que toi tu as placées pour cela. Nous te rendons grâce, Jésus, pour ton soutien et ta fidélité. Nous te bénissons. Amen, Seigneur. Alléluia. Voilà, je vous rappelle simplement ce qui est devant nous, c'est-à-dire la réunion de prière de mercredi à 20h15, les questions-réponses bibliques vendredi à 19h15, la réunion d'évangélisation vendredi à 20h15, distribution d'invitations dans les villages, samedi rendez-vous ici à 14h30. On va encore attendre pour la remise en route de l'école du mercredi que la situation se calme un peu au niveau du Covid, etc. Voilà. Amen. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse.